Chapitre 3. Une visite étrange. La pauvre Gérande aurait vu sa vie s'éteindre avec celle de son père sans la pensée d'Aubert qui la rattachait au monde. Le vieil horloger s'en allait peu à peu. Ses facultés tendaient évidemment à s'amoindrir en se concentrant sur une pensée unique. Par une funeste association d'idées, il ramenait tout à sa monomanie et la vie terrestre semblait s'être retirée de lui pour faire place à cette existence extranaturelle des puissances intermédiaires. Aussi, quelques rivaux mal intentionnés ravivèrent-ils les bruits diaboliques qui avaient été répandus sur les travaux de Maître Zacharius. La constatation des dérangements inexplicables qu'éprouvaient ces montres fit un effet prodigieux parmi les maîtres horlogers de Genève. Que signifiait cette soudaine inertie de leur rouage et pourquoi ces bizarres rapports qu'elles paraissaient avoir avec la vie de Zacharius ? C'était là de ces mystères que l'on n'envisage jamais sans une secrète terreur. Dans les diverses classes de la ville, depuis l'apprenti jusqu'au seigneur qui se servait des montres du vieil horloger, il ne fut personne qui ne pût juger par lui-même de la singularité du fait. On voulut, mais en vain, pénétrer jusqu'à Maître Zacharius. Celui-ci tomba fort malade, ce qui permit à sa fille de le soustraire à ses visites incessantes qui dégénéraient en reproches et en récrimination. Les médecines et les médecins furent impuissants vis-à-vis de ce dépérissement organique dont la cause échappait. Il semblait parfois que le cœur du vieillard cessât de battre, et puis ses battements reprenaient avec une inquiétante irrégularité. La coutume existait, dès lors, de soumettre les œuvres des maîtres à l'appréciation du populaire. Les chefs des différentes maîtrises cherchaient à se distinguer par la nouveauté ou la perfection de leurs ouvrages, et ce fut parmi eux que l'état de Maître Zacharius rencontra la plus bruyante pitié, mais une pitié intéressée. Ses rivaux le plaignaient d'autant plus volontiers qu'ils le redoutaient moins. Il se souvenait toujours des succès du vieil horloger quand il exposait ses magnifiques horloges à sujets mouvants, ses montres à sonneries, qui faisaient l'admiration générale et atteignaient de si hauts prix dans les villes de France, de Suisse et d'Allemagne. Cependant, grâce aux soins constants de Gérande et d'Aubert, la santé de Maître Zacharius parut se raffermir un peu, et au milieu de cette quiétude que lui laissa sa convalescence, il parvint à se détacher des pensées qui l'absorbaient. Dès qu'il put marcher, sa fille l'entraîna hors de la maison où les pratiques mécontentes affluaient sans cesse. Aubert, lui, demeurait à l'atelier, montant et remontant inutilement ses montres rebelles, et le pauvre garçon, n'y comprenant rien, se prenait quelquefois la tête à deux mains avec la crainte de devenir fou comme son maître. Gérande dirigeait alors les pas de son père vers les plus riantes promenades de la ville. Tantôt, soutenant le bras de Maître Zacharius, elle prenait par Saint-Antoine, d'où la vue s'étend sur le coteau de Coligny et sur le lac. Quelquefois, par les belles matinées, on pouvait apercevoir les pics gigantesques du mont Buet se dresser à l'horizon. Gérande nommait par leur nom tous ces lieux presque oubliés de son père, dont la mémoire semblait déroutée, et celui-ci éprouvait un plaisir d'enfant à apprendre toutes ces choses dont le souvenir s'était égaré dans sa tête. Maître Zacharius s'appuyait sur sa fille, et ses deux chevelures, blanches et blondes, se confondaient dans le même rayon de soleil. Il arriva aussi que le vieil horloger s'aperçut enfin qu'il n'était pas seul en ce monde. En voyant sa fille jeune et belle, lui vieux et brisé, il songea qu'après sa mort elle resterait seule, sans appui, et il regarda autour de lui et autour d'elle. Bien des jeunes ouvriers de Genève avaient déjà courtisé Gérande, mais aucun n'avait eu accès dans la retraite impénétrable où vivait la famille de l'horloger. Il fut donc tout naturel que pendant cette éclaircie de son cerveau, le choix du vieillard s'arrêta sur Aubert Thune. Une fois lancé sur cette pensée, il remarqua que ces deux jeunes gens avaient été élevés dans les mêmes idées et les mêmes croyances, et les oscillations de leur cœur lui parurent isochrones, comme il le dit un jour à Scolastique. La vieille servante, littéralement enchantée du mot, bien qu'elle ne le comprît pas, jura par sa sainte patronne que la ville entière le saurait avant un quart d'heure. Maître Zacharius eut grand peine à la calmer, et obtint d'elle enfin de garder sur cette communication un silence qu'elle ne tint jamais. Si bien qu'à l'insu de Gérande et d'Aubert, on causait déjà dans tout Genève de leur union prochaine. Mais il advint aussi que pendant ces conversations, on entendait souvent un ricanement singulier et une voix qui disait « Gérande n'épousera pas Aubert ». Si les causeurs se retournaient, ils se trouvaient en face d'un petit vieillard qu'ils ne connaissaient pas. Quel âge avait cet être singulier? Personne n'eût pu le dire. On devinait qu'il devait exister depuis un grand nombre de siècles, mais voilà tout. Sa grosse tête écrasée reposait sur des épaules dont la largeur égalait la hauteur de son corps, qui ne dépassait pas 3 pieds. Ce personnage eût fait bonne figure sur un support de pendule, car le cadran se fut naturellement placé sur sa face et le balancier aurait oscillé à son aise dans sa poitrine. On eût volontiers pris son nez pour le style d'un cadran solaire, tant il était mince et aigu. Ses dents, écartées et à surface épicycloïque, ressemblaient aux engrenages d'une roue et grinçaient entre ses lèvres. Sa voix avait le son métallique d'un timbre, et l'on pouvait entendre son cœur battre comme le tic-tac d'une horloge. Ce petit homme, dont les bras se mouvaient à la manière des aiguilles sur un cadran, marchait par saccades sans se retourner jamais. Le suivait-on? On trouvait qu'il faisait 1 lieue par heure et que sa marche était à peu près circulaire. Il y avait peu de temps que cet être bizarre errait ainsi, ou plutôt tournait par la ville. Mais on avait pu observer déjà que chaque jour, au moment où le soleil passait au méridien, il s'arrêtait devant la cathédrale de Saint-Pierre et qu'il reprenait sa route après les 12 coups de midi. Hormis ce moment précis, il semblait surgir dans toutes les conversations où l'on s'occupait du vieil horloger et l'on se demandait, avec effroi, quel rapport pouvait exister entre lui et Maître Zacharius. Au surplus, on remarquait qu'il ne perdait pas de vue le vieillard et sa fille pendant leur promenade. Un jour, sur la treille, Gérande aperçut ce monstre qui la regardait en riant. Elle se pressa contre son père avec un mouvement d'effroi. « Qu'as-tu, ma Gérande ? » demanda Maître Zacharius. « Je ne sais, » répondit la jeune fille. « Je te trouve changée, mon enfant, » dit le vieil horloger. « Voilà donc que tu vas tomber malade à ton tour ? Eh bien, » ajouta-t-il avec un triste sourire, « il faudra que je te soigne et je te soignerai bien. »« Oh, mon père, ce ne sera rien. J'ai froid et j'imagine que c'est... »« Et quoi, Gérande ? » ?»« La présence de cet homme qui nous suit sans cesse, » répondit-elle à voix basse. Maître Zacharius se retourna vers le petit vieillard. « Ma foi, il va bien, » dit-il, avec un air de satisfaction, « car il est justement 4 heures. Ne crains rien, ma fille, ce n'est pas un homme, c'est une horloge. » Gérande regarda son père avec terreur. Comment Maître Zacharius avait-il pu lire l'heure sur le visage de cette étrange créature ?« À propos, » continua le vieil horloger, sans plus s'occuper de cet incident, « je ne vois pas Aubert depuis quelques jours. » « Il ne nous quitte cependant pas, mon père, » répondit Gérande, dont les pensées prirent une teinte plus douce. « Que fait-il alors ?»« Il travaille, mon père. »« Ah ! » s'écria le vieillard, « il travaille à réparer mes montres, n'est-il pas vrai ? » ?»« Mais il n'y parviendra jamais, car ce n'est pas une réparation qu'il leur faut, mais bien une résurrection. » Gérande demeura silencieuse. « Il faudra que je sache, » ajouta le vieillard, si l'on n'a pas encore rapporté quelques-unes de ces montres damnées sur lesquelles le diable a jeté une épidémie. Puis, après ces mots, Maître Zacharius tomba dans un mutisme absolu jusqu'au moment où il heurta la porte de son logis et pour la première fois depuis sa convalescence, tandis que Gérande regagnait tristement sa chambre, il descendit à son atelier. Au moment où il en franchissait la porte, une des nombreuses horloges suspendues au mur vint à sonner 5 heures. Ordinairement, les différentes sonneries de ces appareils, admirablement réglés, se faisaient entendre simultanément, et leur concordance réjouissait le cœur du vieillard. Mais ce jour-là, tous ces timbres tintèrent les uns après les autres, si bien que pendant 1/4 d'heure, l'oreille fut assourdie par leurs bruits successifs. Maître Zacharius souffrait affreusement. Il ne pouvait tenir en place. Il allait de l'une à l'autre de ses horloges, et il leur battait la mesure comme un chef d'orchestre qui ne serait plus maître de ses musiciens. Lorsque le dernier son s'éteignit, la porte de l'atelier s'ouvrit et Maître Zacharius frissonna de la tête aux pieds en voyant devant lui le petit vieillard qui le regardait fixement et lui dit Maître, ne puis-je m'entretenir quelques instants avec vous ?
Qui êtes-vous ? Demanda brusquement l'horloger.
Un confrère. C'est moi qui suis chargé de régler le soleil.
Ah, c'est vous qui réglez le soleil ? Répliqua vivement maître Zacharius, sans sourciller.
Eh bien, je ne vous en complimente guère. Votre soleil va mal, et pour nous trouver d'accord avec lui, nous sommes obligés tantôt d'avancer nos horloges et tantôt de les retarder.
Et par le pied fourchu du diable, s'écria le monstrueux personnage, vous avez raison, mon maître. Mon soleil ne marque pas toujours midi au même moment que vos horloges. Mais un jour, on saura que cela vient de l'inégalité du mouvement de translation de la Terre, et l'on inventera un midi moyen qui réglera cette irrégularité.
Vivrai-je encore à cette époque ? Demanda le vieil horloger, dont les yeux s'animèrent.
Sans doute, répliqua le petit vieillard en riant. Est-ce que vous pouvez croire que vous mourrez jamais ?
Hélas, je suis pourtant bien malade.
Au fait, causons de cela. Par Belzébuth, cela nous mènera à ce dont je vais vous parler.
Et ce disant, cet être bizarre sauta sans façon sur le vieux fauteuil de cuir et ramena ses jambes l'une sous l'autre, à la façon de ces os décharnés que les peintres de tentures funéraires croisent sous les têtes de mort. Puis il reprit d'un ton ironique.
« Voyons ça, maître Zacharius. Que se passe-t-il donc dans cette bonne ville de Genève ? On dit que votre santé s'altère, que vos montres ont besoin de médecins.
Ah, vous croyez, vous, qu'il y a un rapport intime entre leur existence et la mienne ? S'écria maître Zacharius.
« Moi, j'imagine que ces montres ont des défauts, des vices même. Si ces gaillardes-là n'ont pas une conduite fort régulière, il est juste qu'elles portent la peine de leur dérèglement. Il m'est avis qu'elles auraient besoin de se ranger un peu. »
« Qu'appelez-vous des défauts ? » fit maître Zacharius, rougissant du ton sarcastique avec lequel ces paroles avaient été prononcées. « Est-ce qu'elles n'ont pas le droit d'être fières de leur origine ?»«
Pas trop, pas trop, » répondit le petit vieillard. « Elles portent un nom célèbre, et sur leur cadran est gravée une signature illustre, c'est vrai. Elles ont le privilège exclusif de s'introduire parmi les plus nobles familles. Mais depuis quelque temps, elles se dérangent, et vous n'y pouvez rien, maître Zacharius. Et le plus inhabile des apprentis de Genève vous en remontrerait. »«
À moi ? À moi, maître Zacharius ? » s'écria le vieillard avec un terrible mouvement d'orgueil.
« À vous, maître Zacharius, qui ne pouvez rendre la vie à vos montres. »
Mais c'est que j'ai la fièvre, et qu'elles l'ont aussi, répondit le vieil horloger, tandis qu'une sueur froide lui courait par tous les membres.
Eh bien, elles mourront avec vous, puisque vous êtes si empêché de redonner un peu d'élasticité à leur ressort.
Mourir ? Non pas, vous l'avez dit. Je ne peux pas mourir, moi, le premier horloger du monde, moi qui, au moyen de ces pièces et de ces rouages divers, ai su régler le mouvement avec une précision absolue. N'ai-je donc pas assujetti le temps à des lois exactes, et ne puis-je en disposer en souverain ? Avant qu'un sublime génie vînt disposer régulièrement ces heures égarées, dans quelle vague immense était plongée la destinée humaine ? À quel moment certains pouvaient se rapporter les actes de la vie ? Mais vous, homme ou diable, qui que vous soyez, vous n'avez donc jamais songé à la magnificence de mon art, qui appelle toutes les sciences à son aide ? Non. « Non, moi, maître Zacharius, je ne peux pas mourir, car puisque j'ai réglé le temps finirait avec moi. Il retournerait à cet infini dont mon génie a su l'arracher, et il se perdrait irréparablement dans le gouffre du néant. Non, je ne puis pas plus mourir que le créateur de cet univers, soumis à ses lois. Je suis devenu son égal, et j'ai partagé sa puissance. Maître Zacharius a créé le temps, si Dieu a créé l'éternité. »
Le vieil horloger ressemblait alors à l'ange déchu, se redressant contre le Créateur. Le petit vieillard le caressait du regard et semblait lui souffler tout cet emportement impie.
« Bien dit, maître, répliqua-t-il. Belzébuth avait moins de droit que vous de se comparer à Dieu. Il ne faut pas que votre gloire périsse. Aussi votre serviteur veut-il vous donner le moyen de dompter ces montres rebelles.
« Quel est-il ? Quel est-il ? » s'écria maître Zacharius.
« Vous le saurez le lendemain du jour où vous m'aurez accordé la main de votre fille. »«
Ma Gérande ? » ?»«
Elle-même. »«
Le cœur de ma fille n'est pas libre, » répondit maître Zacharius à cette demande, qui ne parut ni le choquer ni l'étonner.
« Bah, ce n'est pas la moins belle de vos horloges, mais elle finira par s'arrêter aussi. »«
Ma fille, ma Gérande, Non, jamais. Eh bien, retournez à vos montres, maître Zacharius. Montez et démontez-les. Préparez le mariage de votre fille et de votre ouvrier. Trempez des ressorts faits de votre meilleur acier. Bénissez Aubert et la belle Gérande, mais souvenez-vous que vos montres ne marcheront jamais et que Gérande n'épousera pas Aubert. » Et là-dessus, le petit vieillard sortit, mais pas si vite que maître Zacharius ne put entendre sonner 6 heures dans sa poitrine.